Après, Seigneur, ce moment que nous venons de passer en ta présence, ce moment qui nous ont permis de nous approcher de toi, ô Dieu, pour t'exprimer nos sentiments, pour te louer, pour t'adorer. Après ce moment, Seigneur, où par ton Saint-Esprit, nous sommes entrés dans le Saint des Saints, afin de t'adorer, de te contempler, toi qui es assis sur le trône et qui règne au siècle des siècles. Oui, après ce temps où nous nous sommes aussi réjouis en ta présence, nous voulons maintenant, Seigneur, te donner l'occasion de nous parler, car nous avons besoin de ta parole. Oh, puisses-tu créer dans nos cœurs la faim et la soif de ta parole. Tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, tu le fais à travers ta parole. C'est ta parole qui nourrit notre vie, qui nourrit notre foi. C'est ta parole qui nous transforme, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance. C'est ta parole qui nous fortifie, Seigneur, qui nous donne la force dont nous avons besoin pour continuer notre marche vers, Seigneur, la gloire. Oui, c'est ta parole qui nous aide, Seigneur, à combattre contre l'ennemi, à résister, Seigneur, à l'œuvre du diable. Oui, ta parole est une véritable nourriture pour nous. Alors, donne-nous, Seigneur, cette parole, au travers de ton serviteur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Bien, c'est le dimanche avant la Pentecôte. Et comme je le soulignais lorsque je me suis adressé à vous pour vous souhaiter la bienvenue, eh bien, je précisais qu'à partir de ce dimanche, et ce jusqu'au dimanche prochain, eh bien, il va être question de la dynamique de l'esprit. Il va être question, mes amis, d'expérimenter quelque chose que le Saint-Esprit a préparé pour nous. Alléluia. Il n'en a pas encore fini avec nous, avec chacun de nous. Il n'en a pas encore fini avec son Église, un peu partout à travers le monde, et surtout dans ces temps de la fin. On a besoin que le Saint-Esprit nous ramène là où tout a commencé. On a besoin que le Saint-Esprit nous révèle la personne de notre Maître. On a besoin que le Saint-Esprit se meuve puissamment parmi nous, qu'il souffle, voyez-vous, et qu'il nous aide dans notre vie, dans notre marche. Oui, on a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit dans la restauration de l'Église. Car l'Église a besoin d'être restaurée. L'Église a besoin de retrouver la place que le Seigneur lui a assignée auprès de lui. L'Église a besoin de retrouver, mes amis, ce qu'elle est véritablement, sa raison d'être ici-bas, a besoin d'être le sel de la terre qui lutte contre la corruption, mais aussi la lumière du monde qui éclaire tous ceux qui sont dans les ténèbres et qui éloigne l'obscurité morale et spirituelle qui plane, hélas, mes amis, sur notre monde et qui exerce une emprise de plus en plus grande. Le Saint-Esprit dans la restauration de l'Église. Nous allons lire le chapitre 37 d'Ézéchiel. Ézéchiel 37, nous allons lire les 10 premiers versets. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit ou par l'esprit, et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée, et très secs. Il me dit, fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici que je veux faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs et ferai pousser de la chair sur vous. Je vous couvrirai de peau, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Voici qu'il y eut un frémissement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je constatai qu'il n'y avait pas de nerfs sur eux. La chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens de quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit vint en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très, très grande armée.
Alléluia.
Et gloire au Seigneur. Voyez ce dont le Seigneur est capable. Quelque chose qui commence de manière macabre, lugubre, sinistre, et qui se termine de manière glorieuse. Alléluia. C'est pourquoi avec Dieu, il ne faut jamais désespérer. Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, quel que soit l'environnement, eh bien, dans lequel nous évoluons, quel que soit ce qui nous arrive, ce qui advient dans notre vie, eh bien, avec lui, il y a toujours espoir. Il est le seul qui puisse accomplir des miracles, comme ce fut le cas dans cette vision qu'il donna à son serviteur Ézéchiel, ou Yéhézkel, qui veut dire « elle fortifie », c'est-à-dire « Dieu fortifie » ou « Dieu fortifiera ». Point de besoin, frères et sœurs, de vous rappeler que nous sommes le 17 mai, dimanche précédent celui qui est réservé donc à la Pentecôte. Et donc, à cette occasion, à ce dimanche, j'aimerais vous inviter à faire un petit saut dans le passé, à faire un voyage. Un voyage dans le temps, afin d'assister à cette scène que nous venons de lire. Cette scène qui, au fond, est une vision que le Seigneur donna à son serviteur après l'avoir enlevé en esprit. Nous ne pouvons pas faire de grandes choses si nous ne sommes pas animés par l'Esprit du Seigneur. Seul le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Seul le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu pour nous. Seul le Saint-Esprit peut nous révéler les voies du Seigneur, car ces voies sont souverainement élevées au-dessus des nôtres. Nous ne pouvons pas deviner les voies du Seigneur. Nous ne pouvons pas, mes amis, rêver et arriver à la conclusion que, donc voilà la voie du Seigneur. Pas du tout. Nous avons besoin de révélations. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et pour cela, il va prendre son serviteur, il va le faire sortir par l'esprit. Il va donc le déposer, littéralement le déposer, dans une vallée remplie d'ossements. Pouvez-vous vous imaginer cette scène? Une scène macabre, oui. Une scène funeste et triste. Mais au-delà de ce caractère un peu lugubre, de ce caractère un peu sinistre et triste, cette scène contient des vérités dont l'Église a encore besoin aujourd'hui. Contient des révélations dont l'Église de Jésus-Christ a besoin, surtout dans ces temps de la fin, où cette Église est attaquée de toutes parts. Il y a un déferlement des puissances des ténèbres, mes amis, contre l'Église de Jésus-Christ. Il nous avait avertis. Il nous avait dit dans quelles conditions il bâtirait son Église, dans un contexte de guerre, d'affrontement avec les puissances des ténèbres. Ne l'oublions jamais, mes amis. Nous ne sommes pas chez nous, nous sommes des étrangers, en route vers notre vraie patrie. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Ne l'oublions jamais. Car, oubliez cela, mes amis, c'est tourner le dos à l'ennemi et lui donner l'occasion de nous achever. L'occasion de faire de nous tout ce qu'il veut. Tourner le dos sur le champ de bataille, eh bien, c'est nous rendre encore plus vulnérables et dans ce combat. Dans ce temps marqué par l'apostasie, dans ce temps marqué par la séduction, par l'égarement, dans ce temps où beaucoup d'assemblées ne sont plus la lumière du monde ni le sel de la terre, oui, dans ce temps, nous avons besoin de nous imprégner de toute cette révélation que nous trouvons dans ce passage. Oui, dans cette vision qui est très claire, mes amis, dans cette expérience que Ézéchiel fit ce jour-là, alors que le Seigneur l'avait amené et déposé dans cette vallée remplie d'ossements, eh bien nous pouvons voir comment Dieu est capable de transformer la vallée de la mort, une sorte de nécropole, une cité de la mort, une cité plongée dans l'ombre de la mort, comment Dieu peut transformer ce lieu-là en une vallée de bénédiction, en un lieu, mes amis, de transformation, en un lieu de restauration, en un lieu où la vie enfin reprend vie. Comment d'un tas d'ossements, comment de tous ces ossements qui remplissaient cette vallée, le Seigneur en a fait à la fin une très grande armée pour sa gloire. Oui, nous pouvons voir à travers cette vision comment le Seigneur est capable de transformer un lieu plongé dans les ténèbres de la mort, mes amis, en un lieu rempli de vie, en un lieu où la vie brille de mille feux. Transformer un lieu de défaite, un lieu d'échec, un lieu de pleurs, un lieu de souffrance, en un lieu, mes amis, de victoire, alléluia, comme nous allons le voir. En bref, à travers cette vision, nous avons là une démonstration d'esprit et de puissance. Examinons de plus près cette scène. Et laissons le Seigneur nous donner quelques pensées dont nous avons besoin, non seulement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan de l'Assemblée. Pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir grandir, croître devant le Seigneur, croître dans sa grâce, croître dans sa connaissance, nous avons besoin d'évoluer dans un bon milieu, un milieu marqué par sa présence, n'est-ce pas? Un milieu où la parole de Dieu prêchait dans toute sa grandeur, dans toute son infaillibilité, où elle prêchait dans toute sa puissance. Un lieu, mes amis, où la sainteté proclamée. À force de côtoyer les gens qui marchent dans la sainteté, vous finirez par comprendre la nécessité de la sanctification et vous commencerez vous-même à tout faire pour être comme eux. Quand vous fréquentez des ignares, quand vous fréquentez des gens qui se plaisent dans le mal, des gens qui sont corrompus jusqu'à la moelle épinière, vous finirez par devenir comme eux. Voilà pourquoi nous devons veiller à ce que notre assemblée soit un lieu où Dieu agit en toute liberté, un lieu où le Saint-Esprit souffle puissamment, un lieu où nous réalisons, mes amis, la finitude de la vie et l'importance de nous mettre en règle par rapport à l'éternité. Un lieu où on nous rappelle que nous ne sommes pas encore chez nous. Nous sommes de passage. Nous sommes en route vers notre vraie patrie. Et non pas un lieu où on nous flatte. Non pas un lieu où on nous suggère que notre vie, in fine, c'est ici-bas. Non! Nous pouvons expérimenter de grandes choses de la part du Seigneur. Nous pouvons recevoir des bénédictions, toutes sortes de grâces de sa part, mais nous ne devons jamais oublier que nous sommes des pèlerins ici-bas, que notre véritable vie, c'est là-haut. Alléluia. Qu'un jour, nous quitterons ce corps de chair, ce corps de souffrance, ce corps vulnérable, mes amis, ce corps oblitéré par le mal, eh bien, pour entrer dans la gloire de notre Père. Oui, examinons cette vision de plus près. Nous avons là, et c'est très clair, une vallée remplie d'ossements, où la vie a cédé la place, malheureusement, à la mort. Il y a désormais dans cet espace beaucoup d'ossements, encore beaucoup d'ossements. Cela suppose qu'auparavant, il y avait la vie. Voyez, il y avait la vie dans cette vallée, dans cet espace plus ou moins vaste. C'est ça une vallée, c'est un espace plus ou moins vaste. Mes amis, entre deux lignes de hauteur, vous avez des montagnes de part et d'autre. Et là, au milieu, vous avez la vallée, n'est-ce pas? Et donc, dans cette vallée-là, désormais, il n'y a que d'ossements. Cela suppose qu'avant que ce corps devienne des ossements, il y avait la vie. Alléluia! Il y avait la vie. L'Esprit, le verset 2 nous le dit, « L'Esprit me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. » Il n'est pas question d'un cimetière, que les choses soient claires, mais d'un champ de bataille, comme nous allons le voir, d'une confrontation entre deux armées. Une armée a fini par écraser l'autre, et les ossements que nous voyons sont le résultat d'une défaite cuisante, sont le résultat, mes amis, d'une victoire d'une armée sur l'autre armée. Et ces ossements-là, eh bien, appartiennent au peuple de Dieu, à l'époque, à Israël. Une vallée où gisent des ossements. Une vallée où reposent, mes amis, des ossements, des os desséchés, des hommes tombés, des hommes tués au cours d'un combat. C'est donc un lieu qui a vu un affrontement entre deux armées. Cette vallée a été le lieu d'une confrontation, le théâtre d'une confrontation. C'est donc un champ de bataille. Des guerriers, des soldats sont tombés. Et par rapport à ces soldats qui sont tombés et qui appartiennent au peuple de Dieu, nous pouvons, mes amis, nous exclamer en nous interrogeant comme David, après avoir appris la mort de Saül et de son fils Jonathan sur le champ de bataille. Il a rédigé une complainte. Il a essayé de comprendre comment les héros sont-ils tombés. Eux qui appartenaient à l'élite d'Israël, que ce soit Saül, que ce soit Jonathan, ils savaient manier les armes sur un champ de bataille. Dans 2 Samuel, chapitre 1er, trois fois il va s'écrier, verset 19, verset 25, verset 27, 2 Samuel, chapitre 1er. Comment des héros sont-ils tombés? Il y avait de quoi se poser la question. Lui-même avait fait partie de cette armée. Et encore, au verset 25, comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il été transpercé sur les hauts lieux? Et le verset 27, comment des héros sont-ils tombés? Il s'interroge, il ne comprend pas, et il ajoute que les deux faisaient partie de l'élite d'Israël. C'est des gens qui savaient manier leurs armes. C'est des gens qui avaient eu à remporter des victoires face à des adversaires. Mais cette fois-ci, eh bien, leur bouclier ne les a pas protégés. Cette fois-ci, bien qu'ils aient eu l'épée et l'arc, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Ils sont tombés. Et comme pour Saül et Jonathan, les hommes dont il est question dans cette vision, c'est-à-dire dans Ézéchiel 37, sont aussi tombés au cours d'une bataille. Comment le savons-nous? Eh bien, c'est à partir du texte lui-même. En allant voir quelques mots hébreux, mais qui ont été traduits d'une certaine manière en français. Lisons en particulier le verset 9, qui va nous mettre sur la piste, qui va nous faire comprendre cela. Verset 9, « Le Seigneur l'Éternel me dit, et prophétise et parle à l'Esprit, prophétise, fils d'homme, tu diras à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens de quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Normalement, le mot traduit par « mort », eh bien, en hébreu, c'est « tuer ». Et donc, ce que la parole de Dieu nous dit, « Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces tués. » Donc, ces gens ne sont pas morts de manière naturelle. Ils n'ont pas connu la mort naturelle, mais ils ont été tués. Ils ont connu une mort violente. Vous voyez? Et la question qu'on peut se poser, eux, le peuple de Dieu, eux qui avaient descendu dans cette vallée avec des armes, voyez, pour combattre leurs adversaires, comment sont-ils tombés sur le champ de bataille? Alors qu'en réalité, ils avaient tout pour gagner. Alléluia! Vous êtes toujours avec moi? Eh bien, gloire au Seigneur! Comment leurs adversaires le sont-ils vaincus, alors que le Dieu redoutable, le Dieu invincible, le Dieu de la Bible, était pour eux et avec eux, était de leur côté? Comment, en d'autres mots, expliquer cet échec, cette défaite, cet revers qui finira par le conduire à la mort? Vous le savez tous, mes amis, qu'il n'y a pas d'effet sans cause, n'est-ce pas? S'ils ont été tués, c'est qu'il y a des choses qui ont fait qu'ils puissent connaître cette défaite dans cette vallée qui deviendra la vallée remplie d'ossements. Essayons de comprendre les raisons de leur défaite face à leurs adversaires. Encore une fois, je vous rappelle, ces ossements sont les restes des hommes qui ont été tués au cours d'une bataille. Ces os, eh bien, sont les restes des hommes qui sont tombés sur le champ de bataille. Ils étaient dans ce champ de bataille pour se battre, mais malheureusement, ils ont fini par y laisser leur vie. Comment comprendre cela? Encore une fois, la parole de Dieu va nous aider à comprendre. Voyez, qu'est-ce qui a fait que ces gens connaissent la défaite? Qu'est-ce qui a fait que sur le chemin, plutôt sur le champ de bataille, qu'ils puissent connaître cette déroute? Nous allons lire un passage un seul verset, dans le psaume 78 au 78, le verset 9. Psaume 78, le verset 9. Nous lisons. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos au jour du combat. Déclaration affligeante. Je relis. Les fils d'Éphraïm, une des tribus d'Israël, qui était une des grandes tribus d'Israël, au point où finalement, pour parler du royaume du Nord, parlait d'Israël, on parlait d'Éphraïm. Voyez? Armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos au combat. Quelle déclaration terrible! Quelle déclaration, comme je viens de le dire, affligeante! Ces hommes d'Éphraïm, mes amis, avaient été appelés, avaient été formés. Ils avaient reçu des armes pour combattre, pour descendre sur le champ de bataille et combattre. Mais malheureusement, sur le champ de bataille, ils tournèrent le dos à leurs adversaires, et le résultat, quand on tourne le dos à leur adversaire, on lui donne l'occasion de vous achever. Alléluia. Tournez le dos. Quelle attitude irresponsable. Quelle attitude terrible, mes amis, pour des combattants auxquels on a donné des armes, qui sont descendus sur le plan. Allez. Excusez-moi. Qui sont descendus sur un champ de bataille afin de combattre, qui à un moment oublient qu'ils sont en campagne, oublient qu'ils sont sur un champ de bataille, et pour des raisons X, tournent le dos au jour du combat, tournent le dos à l'adversaire, vous voyez, et en faisant cela, eh bien, ils donnent l'occasion à l'adversaire de prendre le dessus sur eux. Comment alors expliquer cette attitude indigne, cette attitude irresponsable des fils d'Éphraïm? Eh bien, nous allons essayer un peu d'analyser. Qu'est-ce qui peut amener un combattant qui est sur le champ de bataille, qui sait qu'il est là, non pas dans une caserne, non pas dans un camp militaire, mais qu'il est au front, qu'il est sur le champ de bataille? Qu'est-ce qu'il peut faire qu'à un certain moment, il tourne le dos? Voyez-vous? Eh bien, nous allons examiner très rapidement quelques facteurs, quelques points. Et cela, eh bien, va nous permettre de comprendre aussi combien de fois, dans ce combat dans lequel nous sommes engagés, eh bien, il nous est arrivé de tourner le dos à l'adversaire et de ne pas continuer à combattre encore. Eh bien, les fils d'Éphraïm, première raison, premier facteur, ont tourné le dos face à l'ennemi parce que ils ont eu certainement peur de l'adversaire, oui ou non? Je vais sur le champ de bataille, je dois combattre contre mon adversaire, je regarde à mon adversaire, eh bien je me vois tout petit. Je regarde à son armement, je compare son armement à mon armure, je me dis, non, c'est pas possible. Comment voulez-vous quelqu'un comme moi puisse, eh bien, me frotter à cet adversaire-là? La peur. Vous voyez? Être effrayé par l'adversaire. Impressionné par sa puissance. Puisqu'on est effrayé, eh bien, la crainte finit par s'emparer de nous. Voyez-vous? Et quand la crainte s'empare de nous, eh bien, ça nous bloque. Nous n'avons plus l'audace ni le courage d'aller de l'avant. Nous faisons quoi? Eh bien, nous tournons le dos pour repartir. Et en tournant le dos, nous donnons l'occasion à l'ennemi de nous achever. Alléluia. Eh oui, c'est ce qui arrive malheureusement. Et c'est ce qui est arrivé certainement au fils d'Éphraïm. Car en tournant le dos au jour du combat, ils ont donné l'occasion à leur adversaire de prendre le dessus sur eux. Souvenez-vous de Saül et de David, dans cette vallée de Héla, face aux Philistins, avec Goliath à leur tête. La Bible nous dit que ce géant Philistin, nous sommes dans 1 Samuel 17, hein, vous pourriez lire ça, eh bien, face à Israël, Goliath descendait dans la plaine, dans la vallée. C'était encore une vallée. Et là, il lançait un défi à Israël. Là, il les insultait presque. Là, il les tournait en dérision. Il les défiait. Si vraiment, celui que vous prétendez être votre Dieu peut faire quelque chose pour vous, alors je vous lance un défi. Descendez dans la vallée et affrontez-vous à moi. Et la Bible nous dit que ce soit Saül lui-même qui était là et censé conduire le combat, la bataille, que ce soit ses soldats, eux tous furent effrayés et remplis de crainte face à ce Goliath-là, terrifiés, saisis d'une grande crainte, paralysés, voyez, tétanisés. à la vue de ce géant, de ce monstre, à la vue de ce géant, de cet homme aguerri. Voyez-vous, Israël n'a pas osé bouger. Israël est resté paralysé. Voyez, jusqu'à ce qu'arrive un jeune homme, un David, qui lui ne va pas se laisser impressionner par la taille du géant, par la manière dont le géant était armé. Il va regarder au-dessus de ces géants. Et au-dessus de ces géants, il a vu son Dieu. Il a dit, tu viens vers moi avec toutes les armes que tu as. Mais je viens au nom du Dieu d'Israël que tu as osé insulter. Tu as osé le défier. Je viens au nom de ce Dieu-là et je vais t'achever. Et résultat, avec sa fronde et un caillou ramassé, David finit par abattre ce géant-là. Et quand le géant tombe, quand la tête est coupée, ben que voulez-vous que le corps fasse? Eh bien, Israël profita de l'occasion pour écraser les Philistins. La peur. On tourne le dos parce qu'on a peur. Le combat est rude. Le combat fait rage. Que d'adversité. Que de problèmes. Que de difficultés. Finalement, on s'est dit non. Je ne me vois pas comment je pourrais m'en sortir. Je ne vois pas comment je pourrais affronter toute cette tempête. Et là, on recule. On commence par reculer, et petit à petit, on tourne le dos, et on prend la poudre des scampettes. Mais en fuyant, eh bien, on ne se met pas à l'abri des armes de l'adversaire. Voilà la première raison, la peur, impressionnée par l'adversaire. Et l'ennemi a de quoi, mes amis, pour parler de nous, parler de l'Église. L'ennemi a de quoi impressionner l'Église. L'ennemi a de quoi effrayer l'Église. L'ennemi a tant de stratégies pour décourager l'Église. Et je peux vous assurer que dans ce combat, beaucoup d'entre nous, eh bien, ont été paralysés et ne combattent même plus. Comme ils ne combattent même plus, eh bien, ils donnent l'occasion à l'ennemi de prendre le dessus sur eux. Première raison, la peur. C'est la peur qui fait tourner le dos au jour du combat. C'est la peur qui nous empêche, mes amis, de continuer à manier les armes que le Seigneur a mises à notre disposition. Voilà pourquoi l'Église a besoin de restauration. L'Église a besoin de retrouver, mes amis, sa véritable nature, être la lumière du monde. Voyez-vous, briller de sa lumière. La deuxième raison pour laquelle on peut tourner le dos, alors qu'on est sur un champ de bataille, c'est l'attrait du monde. Eh oui. Le monde, mes amis, nous fait miroiter toutes sortes de choses. Alors que nous avons pris la décision de fixer nos yeux sur Jésus, eh bien, il va continuer à essayer de nous arrêter dans notre marche avec le Seigneur. Et le monde est rempli de toutes sortes d'artifices, de toutes sortes de réalités, de nature à nous décourager, d'avancer pour finalement nous arrêter, nous retourner et puis revenir quelquefois ce qu'on avait vomi autrefois. Le monde avec ses plaisirs, le monde avec ses séductions, le monde avec ses possessions matérielles, oui, le matérialisme ambiant. Regardez tous ces chrétiens qui aujourd'hui ne sont nulle part. Certes, ils vont à l'église. Certes, ils lèvent les mains. Certes, ils chantent. Certes, ils dansent. Surtout ici, chez nous, au Congo. Voyez-vous? Vous prenez le chant chrétien, vous le mettez dans une boîte de nuit, eh bien, les gens vont danser. Au point aujourd'hui, quand on voit les gens danser, vous ne savez plus s'ils dansent. Parce que c'est un chant chrétien qui est joué, ou alors c'est un artiste connu du monde qui chante. Voyez? C'est pareil aujourd'hui. Vous allez trouver des gens qui s'étrémoussent, vous avez l'impression d'être dans un bar. Nous devons faire très attention. Voilà. Alors on regarde à tout ça, on se dit, oh là là, dans cette église, l'onction est là. Non! Voyez, le manque d'onction peut vous faire danser. Et du reste, les vrais danseurs, nous le trouvons dans le monde, oui ou non? Oui. Le monde avec ses plaisirs, Le monde avec ses distractions, le monde avec ses possessions matérielles. Combien de chrétiens aujourd'hui ont tourné le dos au jour du combat, ne combattent même plus. Voyez-vous, l'ennemi leur a fait miroiter tant de choses. Voyez, il leur a dit, ça ne sert à rien, le bonheur c'est ici. Cherche l'argent, oublie ce Jésus-là. Cherche l'argent, cherche la position sociale. Voyez-vous, lance-toi dans telle ou telle autre affaire. C'est mieux que de marcher avec Jésus et d'attendre le ciel. Ta vie, c'est ici. Beaucoup ont entendu ce genre de messages et y ont cédé. Le monde avec ses convoitises. Oui, ce monde exerce une certaine attraction, une force d'attraction sur chacun de nous. C'est ainsi que ceux qui étaient des héros hier, aujourd'hui sont tombés sur le champ de bataille. On n'en parle plus. Des pasteurs qui étaient autrefois remplis du Saint-Esprit. Des hommes que le Seigneur a utilisés puissamment autrefois. Aujourd'hui, ils courent la prétentaine. Aujourd'hui, ils sont remplis de convoitises. Aujourd'hui, ils ne sont nulle part. Certes, ils ont toujours le nom de Jésus dans leur bouche. Certes, ils prêchent. Et encore aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous n'avez même plus besoin de méditer la Bible. Voyez-vous, vous donnez quelques pensées à l'intelligence artificielle, eh bien, il vous prépare, il vous pondère une prédication. Oui ou non? Siècle terrible. Voyez. Au lieu de travailler, de chercher l'onction. Mais laissez-moi vous dire une chose, ces genres de messages ou de prédications préparées par l'IA, eh bien, sont des messages vides. Il n'y a pas de vie, car la parole doit se communiquer à travers un cœur vivant. On doit aller chercher la parole de Dieu, et non pas laisser des robots faire des messages à notre place. Voyez-vous? Et quant à nous, eh bien, nous prenons le même message, nous le lisons, comme n'importe qui le ferait. Ce n'est pas de ça dont l'Église a besoin. On a besoin de prédications qui viennent tout droit du trône de la grâce. Voyez-vous, le monde n'a pas encore dit son dernier mot. Tant que nous serons dans ce corps et sur cette terre, le monde continuera à exercer son influence sur nous. Voilà pourquoi nous devons mourir à nous-mêmes. Je reviendrai à notre message, ce n'est pas encore fini. On a parlé de la foi, voyez-vous. On va parler du renoncement à soi. On va parler de la nécessité de mourir à soi-même, voyez-vous, pour pouvoir vivre pour Jésus. Le monde, avec sa force d'attraction, avec sa pesanteur sur nous. 1 Jean 2, versets 15 à 17, nous met en garde contre 3 convoitises majeures. La convoitise de la chair. Voyez-vous, 15 à 17, nous allons lire. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Regardez, l'apôtre met les choses sur le plan des affections. N'aimez point le monde. Ne placez pas vos affections sur le monde. Vous ne pouvez pas être à la fois rempli de l'amour de Dieu et de l'amour du monde. La présence de l'amour de Dieu, eh bien, fera en sorte que l'amour du monde n'y soit pas là. Et quand l'amour du monde est là, eh bien, il n'y aura pas d'amour de Dieu. Et donc, les deux amours ne peuvent pas être cohabités, car il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Et nous continuons, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, écoutez bien, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Faire la volonté de Dieu, c'est accepter d'être sur le champ de bataille. Peu importe les coups qu'on pourrait recevoir. Eh bien, lui est là pour nous fortifier. Lui est là pour nous aider, afin que nous continuions le combat. Voyez-vous, Ces facteurs que je viens de citer très rapidement sont susceptibles, mes amis, de nous distraire au point de nous amener à tourner le dos au jour du combat, à tourner le dos à l'ennemi et à vouloir prendre la fuite. Ce fut le cas d'Israël dans cette vision. Sa condition spirituelle était abominable. Ils étaient morts spirituellement parlant, voyez. Et nous avons vu dans le même texte comment le Seigneur va transformer cette situation. Comment ces morts sont-ils venus à la vie, voyez-vous. Cela nous montre encore une fois, mes amis, la puissance, l'efficacité de la parole prophétique du Seigneur. La parole qui sort de la bouche de Dieu, pas des simples versets glanés ça et là, et qu'on jetterait sur le jeu en disant, voilà, recevez la parole. Non, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, le rhéma du Dieu vivant. Voyez-vous, Dieu a restauré son peuple, et nous l'avons vu comment. Nous aussi, mes amis, et je me permets de vous le rappeler, nous sommes engagés dans un combat. Et cette guerre ne relève pas du domaine physique. Ça veut dire que nos adversaires, on l'a déjà vu, nos adversaires ne sont pas physiques. Ce ne sont pas nos collègues, ce ne sont pas nos chefs, ce ne sont pas nos voisins. Nos adversaires, ce ne sont pas tous ces êtres visibles, vous voyez, comme le dit Paul dans Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à combattre à partir de 14. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les pouvoirs, contre les principautés, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits méchants, les esprits du mal dans les lieux célestes. Alléluia. Et par rapport à ce combat, le Seigneur a mis à notre disposition toute une panoplie, toute une armure, constituée à la fois d'armes défensives et offensives. Et ces armes que le Seigneur met à notre disposition, que vous pouvez trouver dans ce chapitre 6, eh bien, sont des armes puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia. Ces armes nous protègent de la tête jusqu'aux pieds. Formidable. Dieu a tout prévu, voyez-vous, de la tête jusqu'aux pieds. Le casque du salut, le bouclier, l'épée, etc. Vous voyez? Oui, de la tête aux pieds. Cependant, écoutez-moi bien, cependant, il y a une partie du corps pour laquelle le Seigneur n'a pas prévu d'armes ni d'armure. Quelle est cette partie du corps qui n'est pas couverte? Eh bien, c'est le dos. Alléluia. C'est le dos. Dans cette armure, il n'y a rien pour protéger le soldat du Christ. À partir de son dos, rien. Pourquoi? Parce que l'intention du Seigneur n'est pas que ses soldats se retournent et prennent la fuite, mais plutôt qu'ils résistent au diable, afin que ce soit le diable qui prenne la fuite et non pas le soldat du Christ. Voilà pourquoi nous devons combattre et jamais baisser les bras. Combattre et combattre encore, car à la fin, eh bien, nous finirons par triompher. Nous finirons par avoir la victoire. Alléluia. Jacques 4, verset 7 nous le dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin. » C'est le diable qui doit fuir, pas nous. Nous ne devons jamais tourner le dos. Et le Seigneur a fait exprès de ne pas nous donner une arme qui puisse protéger notre dos, car il ne nous a pas appelé à nous lancer dans un combat, et puis ensuite à tourner le dos et à vouloir nous enfuir. Non, il nous destine à la victoire. Mes amis, pour terminer, nous continuerons avec la même pensée, et tant d'autres, ici avec le séminaire auquel je vous invite tous. Nous faisons partie du peuple de Dieu, vous et moi, et en tant que tel, le Seigneur voudrait nous visiter par son Saint-Esprit. Le Seigneur voudrait souffler puissamment au milieu de nous, par son Esprit, afin de restaurer chacun de nous. J'ai besoin de restauration. spirituelle. J'ai besoin de restauration physique. Et seul l'Esprit de Dieu peut le faire. L'Église a besoin de restauration morale et spirituelle. Eh bien, seul le Saint-Esprit peut le faire. Et il le fait lorsque la parole prophétique est proclamée. Il ne le fait pas lorsque des fausses prophéties sont données. Non! Il ne le fait pas lorsqu'il y a des hérésies qui sont enseignées. Il le fait lorsque la parole vient de la bouche de l'Éternel. Car le Saint-Esprit nous a été donné pour honorer un seul nom, Jésus de Nazareth. Pour le glorifier. Le Saint-Esprit accomplit la parole qu'il a inspirée. Alléluia. Et non pas des paroles qui viendraient de nous. Quelle est alors la condition spirituelle et morale de notre assemblée? Qu'est-ce que nous prêchons ici à la borne? Y a-t-il un climat marqué par la sainteté, par la crainte de Dieu? Que prêchons-nous ici à la borne? Quelle est notre thermométrie spirituelle? Voyez-vous? Quelle est la température spirituelle de la borne ou de toute autre assemblée? Notre Église est-elle un tas de vieux os, un tas d'ossements, une Église spirituellement morte, voyez, sans aucun espoir de retour à la vie? Eh bien, si c'est le cas, il y a moyen de passer de la mort à la vie, alléluia. C'était des ossements séchés, secs. Dieu est capable, mes amis, quel que soit le degré de sécheresse spirituelle ou morale, quelle que soit la condition morale et spirituelle dans laquelle nous nous trouvons, Dieu est capable de nous restaurer, de nous mettre de nouveau sur le rail et de nous donner une impulsion pour que nous allions de l'avant. Le Seigneur nous appelle à ne pas tourner le dos sur le champ de bataille, à continuer à combattre. L'ennemi rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Il cherche à nous décourager. Il nous brandit toutes sortes de menaces. Oh, combien d'entre nous ont eu à céder à ces menaces? Ils ont tourné le dos. Et là, le diable a clamé. Ce n'est pas à nous de fuir, mais c'est à lui de fuir. Pour autant que nous restions soumis à notre Seigneur, en restant sous l'autorité de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous avons tous besoin des restaurations. Nous avons tous besoin que le Saint-Esprit souffle puissamment dans son Église. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut restaurer l'Église. Et il le fait au moyen de sa parole, ce que nous appelons la parole prophétique. Il le fait, mes amis, à travers sa parole. Que le Seigneur nous aide à rester attachés à sa parole, à ne pas nous laisser distraire par toutes sortes d'enseignements pernicieux, d'enseignements toxiques. Voyez. Alors, si nous avons besoin de restauration, je vous prie de vous mettre debout. Restauration spirituelle, restauration physique, alléluia. Dieu est capable, est capable. Voyez. La chair a poussé sur ses os. Les nerfs ont poussé sur ses os. Et puis ensuite, l'Esprit est venu. Alléluia. Que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan physique, Dieu est capable de nous restaurer. Alors que la maladie ronge nos corps, alors que le péché nous assèche, lui est capable, mes amis, de nous fortifier, est capable de nous donner la vie. Alléluia. Alors prions, demandons au Seigneur de nous visiter puissamment et de nous restaurer. Alléluia. Prions tous ensemble. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, de nous avoir envoyé ton Esprit. Comme tu le dis dans ta parole, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai le Consolateur, j'enverrai le Défenseur, J'enverrai le Paraclétos, le Saint-Esprit. Il prendra ce qui est en moi et vous le donnera. C'est du Saint-Esprit dont nous avons besoin. Restaure-nous par ton Esprit. Souffle dans nos vies, Seigneur. Libère-nous sur le plan spirituel. Délivre-nous de toutes sortes de traditions humaines, des traditions religieuses, qui exercent une sorte de pesanteur sur nous, qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent de combattre véritablement. Aide-nous à manier les armes de la lumière que tu as mises à notre disposition pour combattre notre adversaire ou nos adversaires, car ces armes sont puissantes par la vertu de notre Père. Oui, restaure ton Église. Seigneur, il y a un relâchement, Seigneur, dans le chef de certains. Il y a le découragement qui s'est emparé de certains. Seigneur, certains sont devenus irréguliers. Ils ne voient plus l'importance de venir. Et en quittant l'Église, ils ont donné l'occasion à l'ennemi de les achever. Nous prions pour eux. Ramène-les dans ta maison. Que ton Esprit souffle et le restaure. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci d'accomplir ce travail de restauration, de renouvellement dans nos vies, dans l'Église, par l'Esprit. Seigneur, ton Esprit, le Saint-Esprit. Merci pour tout, pour ce message. Merci aussi pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir soutenir ton œuvre. Seigneur, avec nos offrandes, avec nos dîmes, au Dieu, ou avec, Seigneur, tout autre moyen qui nous permette de soutenir la construction du nouveau temple. Bénis ces offrandes, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.